Fonchelet, on vous retrouve tout à l'heure et tout de suite sur RFI, c'est le journal des sports. Bonjour Florence Valmé.
Bonjour Julien.
Avec du football, la Guinée ne participera pas à la CAN féminine 2026.
Les Guinéennes s'arrêtent au premier tour des éliminatoires de la compétition, tenues en échec 2-2 par le Cap-Vert à Dakar lors du match aller. Les joueuses du Sili National ont lâché prise hier à Praia. Une défaite 4-1, pas vraiment surprenante face à des adversaires supérieurs, reconnaît Mantonin Camara, la sélectionneuse adjointe. Elle est au micro de Tiernoya Diallo.
C'est compliqué. Déjà, on est avec des jeunes, donc à Dakar, on a trébuché à Dakar. On a voulu rectifier le tir en gérant les détails. Mais après, il y a une certaine maturité sur l'adversaire que les filles n'ont pas pu gérer. Et parce que c'est compliqué ici, comme à Dakar, on a pris les buts, les coups de pied arrêtés, sur les phases de jeu en fait. Les corners, les coups de pied arrêtés, c'est ce qui nous a trop fatigués. Parce qu'après, les filles n'ont pas cette maturité, autant de compétition dans les gens.
Une qualification donc du Cap-Vert qui affrontera le Mali lors du deuxième et dernier tour des éliminatoires en octobre.
Le football toujours avec la Coupe de France. Cette fois, on connaît le tableau des demi-finales. Les deux derniers quarts avaient lieu hier soir. Et l'AS Cannes qui s'était qualifié mardi fait figure de petit pousset dans ce dernier carré.
Le club de National 2, équivalent de la 4e division, a éliminé Guingamp, club de Ligue 2, 3-1. Et au sein de cette aventure du club du sud-est de la France, on retrouve une vieille connaissance de la Ligue 1, l'ex-international sénégalais Chen Doy. L'ancien milieu d'Angers fêtera le mois prochain ses 39 ans.
Bah, déjà une fierté, j'ai reçu beaucoup de fierté venant de mes coéquipiers. On a fait un parcours incroyable, personne ne nous attendait. Tout le monde nous voyait perdants. Et aujourd'hui, on a la chance de jouer à domicile et de jouer une demi-finale. Ça, c'est magnifique, c'est incroyable. C'est des moments inoubliables dans une carrière d'un footballeur.
On va pas se cacher, là, on va aller à fond jusqu'au Stade de France. Donc, c'est un rêve. J'ai eu la chance de faire la finale en 2017 avec Angers. Et aujourd'hui, si je peux encore faire une deuxième finale, pourquoi pas?
Chen Doy au micro de Sofiane Amazian dans Radio Foot International, émission bien sûr à réécouter sur le site de RFI et l'application RFI Pure Radio.
Enfin en cyclisme, un peu moins d'un mois après la prise de Goma par le groupe M23 soutenu par le Rwanda, et alors que l'insécurité règne encore dans plusieurs quartiers de la ville, sa jumelle rwandaise Gisenyi accueillait ce mercredi l'arrivée de la 3e étape du Tour du Rwanda.
Une étape remportée comme la veille par l'Australien Brady Gilmore, vainqueur d'un sprint en petit comité. Le Français Fabien Doux Hubert reste maillot jaune, mais les écarts sont faibles et certains coureurs dangereux sont en embuscade, à l'image de l'Érythréen Enoch Mouloubran, qui avait remporté la première étape et qui reste placé 5e à 10 secondes du leader. Le directeur sportif de l'équipe d'Érythrée, Samson Solomon, reste très confiant pour la suite. Il est au micro de Thomas de Saint-Léger.
Il est arrivé avec une bonne condition. Le fait de le voir ici avec la sélection est une source de motivation pour nous tous. Pour l'instant, les grandes équipes s'observent encore, mais ça va se décanter dans les prochains jours. Les étapes à suivre sont les plus dures et il y aura de grandes opportunités pour nous. Pour moi, Enoch reste le grand favori. Toute l'équipe va travailler pour lui.
Une 4e étape donc aujourd'hui. Les coureurs cyclistes vont rallier Karungi.
Merci Florence Valmé, à tout à l'heure.
RFI, toute l'actualité, Julien Coquelle-Rohen.
Et à la une ce matin, le dernier échange prévu dans le cadre de la première phase de l'accord de cessez-le-feu à Gaza. Le Hamas a restitué cette nuit les corps de 4 otages israéliens. Leur identification est en cours alors qu'un premier bus de prisonniers palestiniens est arrivé en Cisjordanie dans la foulée sur les 600 et quelques qui doivent être libérés par Israël. L'incertitude pèse sur la suite alors que la première phase de la trêve se termine samedi et que les négociations sur la deuxième phase n'ont toujours pas commencé. Le Hamas s'y dit prêt et estime qu'Israël n'a pas d'autre choix. L'Union européenne a été conçue pour entuber les États-Unis. Les mots de Donald Trump hier lors de la première réunion de son cabinet à la Maison-Blanche. Le président américain annonce que les produits européens feront l'objet prochainement de 25% de droits de douane. Et puis l'administration Trump qui annonce par ailleurs la suppression de 92% des financements de l'aide américaine à l'étranger et au développement, le gel des versements de USAID avait été suspendu par la justice il y a un mois. L'agence représentait jusqu'ici 42% de l'aide humanitaire déboursée dans le monde, notamment des programmes de lutte contre le VIH sur le continent africain. C'est un pays où Amnesty International dénonçait l'an dernier des violences policières, des entraves à la liberté d'expression, de graves violations des droits humains. En Guinée, Amnesty se mobilise aussi aujourd'hui contre les disparitions forcées d'opposants et d'acteurs de la société civile. Dernier kidnapping en date, celui de l'opposant Abdoul Sakho, enlevé le 19 février à Conakry et retrouvé en brousse dans un état critique après avoir été visiblement torturé. Autre disparition forcée, celle de Fonny Kemenge et de Mamadou Biloba, dont on est toujours sans nouvelles depuis plus de 7 mois. Souleymane Sow est le directeur exécutif d'Amnesty International en Guinée. De passage à Paris, il est notre grand invité Afrique ce matin, au micro de Christophe Boisbouvier.
Souleymane Sow, bonjour.
Bonjour.
En novembre dernier, vous avez lancé une campagne de pétition en Guinée pour le respect des droits de l'homme. Pourquoi cette initiative d'Amnesty International?
Vous savez, c'était pour défendre le cas de Omar Sylla, Fonny Kemenge et de Biloba, parce que ces deux personnes sont portées disparues depuis juillet 2024, et donc c'était pour demander que ces deux camarades soient libérés.
Alors en effet, voilà plus de 7 mois que ces deux leaders de la société civile, Fonny Kemenge et Mamadou Biloba, ont été enlevés par des hommes en uniforme et fortement armés. Pensez-vous qu'ils sont encore vivants?
En tout cas, nous l'espérons. Nous interpellons, nous demandons aux autorités guinéennes, surtout à monsieur le procureur, de dire où s'en est cette enquête. Est-ce qu'ils ont trouvé, ils ont des éléments ou pas? Comme vous le savez, dans cette charte de la transition que les autorités ont proposée au peuple de Guinée, quand même 28 articles de cette charte sur 80 articles portent sur les droits et les libertés fondamentales. Donc plus du tiers de ces articles concernent les droits, les libertés fondamentales. Et donc nous demandons aux autorités guinéennes de respecter leur engagement et donc de libérer Omar Sylla, Fonny Kemenge et Mamadou Biloba et d'ailleurs aussi les autres disparus, ou au moins de dire au peuple de Guinée qu'est-ce qui s'est passé sur le sol guinéen.
Alors en effet, 3 jours après leur disparition, le procureur de Conakry a annoncé l'ouverture d'une enquête. Où est-ce qu'on en est?
Malheureusement, nous n'en savons absolument rien. Aucune communication depuis la sortie de monsieur le procureur.
Donc vous demandez la libération de ces deux leaders de la société civile, ou à défaut?
Ou à défaut que justice soit rendue, comme l'a demandé les familles de ces personnes.
Autre enlèvement, celui du journaliste Habib Marwan. C'était le 3 décembre, il a été kidnappé dans son véhicule et depuis on est sans nouvelles de lui. Et puis tout récemment, le kidnapping de l'opposant Abdoul Sakho. Il a été enlevé le 19 février à son domicile. Alors lui c'est différent, il a été relâché le soir même, mais après avoir été torturé. Est-ce que vous avez de ces nouvelles aujourd'hui?
Nous nous sommes très jeunes, mais pour ceux qui connaissent encore l'histoire de la Guinée, on ne pensait vraiment plus revoir des cas de disparition forcée dans notre pays. Et que maintenant, en plus de cela qu'on parle de cas de torture, il y a déjà eu des cas suspects, des cas de mort dans les prisons qui n'ont pas non plus été élucidés. Alors que la charte, je reviens sur cette charte de la transition, quand vous prenez l'article 11 de cette charte, nul ne peut faire l'objet de torture, de peine ou traitement cruel, dégradant ou inhumain.
Quand il a été relâché au soir du 19 février, Abdoul Sakho avait été tellement frappé au bras qu'il ne pouvait même plus tenir un téléphone. Est-ce que vous avez des nouvelles de lui?
Les témoignages que nous avons reçus de leur conseil disent qu'il est dans un état très très critique.
À la suite de ces actes de torture contre l'opposant Abdoul Sakho, l'ambassade des États-Unis à Conakry vient de se déclarer profondément préoccupée et de demander une enquête sur les circonstances de cet enlèvement d'une grande violence. Est-ce que cette initiative américaine peut changer la donne?
Nous espérons, mais en plus de l'ouverture de cette enquête, nous irons demander qu'il y ait des résultats de ces enquêtes, parce qu'il y a énormément d'enquêtes annoncées sans qu'on ait des résultats.
Dans leur communiqué, les États-Unis demandent aussi une enquête sur la situation des autres disparus, sous-entendu Fonny Kemenge et Mamadou Biloba. Est-ce que les États-Unis peuvent être entendus par les autorités guinéennes?
Nous espérons bien que ça soit les États-Unis ou aussi les autres missions diplomatiques présentes en Guinée, où nous attendons aussi d'ailleurs la CDAO ou aussi l'organisation de la francophonie qui est très en contact avec les autorités guinéennes, parce que la Guinée est partie de beaucoup de textes internationaux.
Et parce que la francophonie vient de réintégrer la Guinée-Conakry, c'était au mois d'octobre dernier.
Exactement. Donc nous pensons que parce que la francophonie a accepté de réintégrer la Guinée selon des critères, et donc ça serait quand même un moyen aussi de faire le point sur la situation des droits humains en Guinée.
Après le lancement de votre campagne de pétition du mois de novembre dernier, vous avez demandé à être reçu par le Premier ministre. Est-ce que que vous l'avez été ?
Pour le moment, non, nous n'avons pas encore été reçus, mais nous espérons bien qu'il va nous recevoir, sachant que notre actuel Premier ministre est quand même membre fondateur, je le rappelle, d'une des premières organisations de défense des droits humains dans le pays. Et donc, en tant que défenseur, nous espérons quand même qu'il va nous recevoir pour que l'on puisse parler des sujets touchant à notre pays.
Souleymane Sow, merci.
Merci à vous.
Souleymane Sow, directeur exécutif d'Amnesty International en Guinée, invité RFI de Christophe Boisbouvier. Et sur RFI, un œil comme chaque matin de la semaine sur l'actualité des matières premières. Nous sommes au Kenya aujourd'hui où le secteur de la viande se porte bien. Selon une étude publiée récemment par le Bureau kényan des statistiques, la viande a généré près de 304 milliards de shillings kenyans, soit environ 225 millions d'euros en 2023. La consommation ne cesse d'augmenter bien que les prix soient en hausse, Gaëlle Lalex.
Le Kenya a produit environ 557 000 tonnes de viande en 2023, soit une hausse de près de 20% par rapport à l'année précédente, un record. 65% de cette viande est consommée localement, selon le Bureau kényan des statistiques. Le poulet reste la protéine préférée des Kenyans, mais la viande rouge s'invite de plus en plus dans les assiettes. Sa consommation a augmenté de plus de 23% en 2023 par rapport à l'année précédente. Cette hausse de la consommation de viande est d'autant plus remarquable que les prix, eux aussi, augmentent, plus 29% sur ces cinq dernières années. Selon un rapport du Bureau Export du ministère néerlandais de l'Agriculture, le marché kényan est en pleine expansion grâce notamment à l'urbanisation tirée par les deux grandes villes du pays, Nairobi et Mombasa. En 2019, 300 000 tonnes de viande manquaient pour répondre aux besoins nationaux. L'un des principaux enjeux reste celui de la structuration de la filière, poursuit l'enquête néerlandaise. Études de marché, abattoirs, chaînes du froid restent encore de véritables défis, mais le ministère néerlandais y voit une belle opportunité d'investir. D'autant plus que le bétail kényan, lui, se porte bien. Le nombre de têtes continue d'augmenter malgré les défis climatiques que rencontre le pays. 80 millions d'animaux ont été abattus en 2023 contre 66 millions en 2020. Certains acteurs se sont même lancés dans l'exportation de viande. C'est le cas de la Commission kényane de la viande, le plus important abattoir du Kenya et de la Corne. Elle exporte 500 tonnes de viande de chèvre, de mouton et de bœuf par an. Ses principaux marchés se trouvent en Afrique, comme l'Égypte, le Soudan, la Tanzanie ou encore le Libéria. Mais la Commission kényane de la viande vend aussi au Proche-Orient et même en Malaisie.
Gaëlle Lalex au Kenya pour les matières premières. Bientôt 6h en temps universel, c'est un métier en crise dont on vous parle cette semaine à l'occasion du Salon de l'agriculture à Paris. RFI donne la parole à celles et ceux qui nourrissent les Français pour vous faire entendre leurs difficultés. Faiblesse des revenus, complexité administrative, changement climatique, mais aussi pour leur poser une question. Comment voient-ils leur profession dans 10 ans ? Nicolas Feldman et Igor Strauss sont allés en région parisienne de l'Oise au Val d'Oise rencontrer deux céréaliers. Ils cultivent les mêmes plantes avec la même passion, mais ne proposent pas les mêmes solutions pour l'avenir de leur travail.
Donc là, ils sont en train de mettre de l'engrais parce que voilà, on sort de l'hiver, le printemps n'est pas loin, et donc les plantes reprennent de la végétation, et là, on est en train de nourrir les colzas et les blés.
Christophe Grison est sympathisant du principal syndicat agricole de France, la FNSEA. Ce céréalier est propriétaire d'une exploitation de 210 hectares, mais il a aussi repris en location la ferme voisine pour s'assurer des revenus.
Attention à l'engin, voilà. Et puis ben là, on aperçoit au loin le tracteur qui fait les allers-retours et qui met de l'azote avec un petit peu de soufre pour redonner un petit coup de boost à la plante qui va repartir en végétation dès que les beaux jours vont arriver.
Et est-ce que à l'échelle du département, de la région, vous vous considérez comme un gros exploitant
Non, parce qu'en fait, la moyenne de la région a énormément augmenté. Hein. Effectivement, aujourd'hui, pour être céréalier, on va dire, et en s'en sortir économiquement, il faut 200-250 hectares minimum, je pense. Hein, voilà. Et on a des régions aussi qui sont peut-être un peu moins productives ici que dans des grandes plaines de la Beauce, de la Marne ou peut-être de la Somme.
Être gros, c'est ce qui vous permet de survivre aujourd'hui ?
C'est pas être gros, c'est écraser les charges. Tous les tracteurs qu'on vend dans la cour, on les achète à 4. Chaque tracteur, en fait, j'en ai que 25%. Parce qu'un tracteur, en 2008, coûtait environ 100 000 euros, pour faire simple. Aujourd'hui, le même vaut 250 000 euros. Il y a une énorme inflation sur les engrais, sur c'est l'inflation générale, quoi. Et donc, forcément, pour serrer les boulons, soit c'est la taille, soit c'est la mutualisation. Mais on peut faire les deux.
Monsieur Rang, ça va ?
Bonjour.
Bonjour.
Nicolas, mon collègue, on est à deux. Olivier Rang.
On va se mettre à l'abri. Là, on est à peu près au milieu de la ferme, donc on a devant nous un semis d'avoine. Et on voit qu'on n'a pas trop mal réussi l'implantation, parce que ça reste pour le moment relativement propre, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, l'agriculture, elle est à la croisée des chemins. Soit elle continue vers une industrialisation de plus en plus forte, soit elle continue lentement, mais sûrement, son virage agroécologique.
Agriculteur, comment continuer à vivre de ce métier dans 10 ans? C'est un grand reportage de Nicolas Feldman et Igor Strauss que vous écoutez aujourd'hui sur RFI à 11h10 et 19h40, temps universel. C'est aussi à retrouver sur RFI.fr et notre application Pure Radio. Bientôt 6h en temps universel, le journal dans une minute sur RFI. À tout de suite.
Appel sur l'actualité est à Cotonou. Juan Gomez.
Le Bénin célèbre le 35e anniversaire de sa conférence nationale souveraine, un rendez-vous historique qui a permis au pays de jeter les bases de la démocratie et qui fut copié dans de nombreux pays d'Afrique. Racontez-nous comment s'est déroulée la conférence nationale dans votre pays. Trois décennies après, les acquis sont-ils préservés?
Retrouvez Appel sur l'actualité tout à l'heure avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
RFI. Carrefour du Maghreb,
à Marrakech, au Jardin Majorelle.
Juliette Rangeval.
Nous vous emmenons dans cette oasis de couleurs, l'un des lieux les plus visités au Maroc. Ce jardin emblématique, refuge du couturier Yves Saint-Laurent, s'est profondément modifié ces dernières années pour s'adapter aux défis du changement climatique.
Carrefour du Maghreb avec Juliette Rangeval, tous les samedis à 11h10 TU sur RFI.